France Musique. Musicopolis. À Dresde, chez Auguste Lefort. Si on admire Dresde aujourd'hui, si on l'appelle la Florence de l'Elbe, si on célèbre ses monuments, ses collections d'art et le souvenir de sa musique, tout cela est dû à un homme, un monarque, un qui avait tout compris en matière de relations entre pouvoir et représentation, le prince électeur Frédéric Auguste Ier. Petite précision sur le nom de notre héros du jour. Né Frédéric Auguste, de la maison de Wettin, il devient prince électeur de Saxe en 1694 à la mort de son frère aîné Jean-Georges IV, sous le nom de Frédéric Auguste Ier. Puis, trois ans plus tard, tenté par la position de roi de Pologne, il se présente à l'élection qu'il remporte. Il devient alors Auguste II de Pologne. Mais d'une manière générale, on l'appelle par son surnom de Auguste le Fort. Si tout s'était passé comme prévu, Auguste le Fort n'aurait pas dû régner, puisqu'il avait un frère aîné. Mais celui-ci est mort de la variole, une maladie virale très répandue à l'époque, au bout de 3 ans de règne, et sans avoir d'enfant légitime. Son Benjamin, qui jusque-là s'était intéressé principalement aux arts et aux plaisirs de la vie, a donc dû endosser le costume de prince électeur. Son qualificatif de « le fort » n'était, semble-t-il, pas usurpé, puisqu'on raconte qu'il brisait des fers à cheval à main nue et qu'il était également très fort au lancer de renard. Le fait qu'on lui prête entre 365 et 382 enfants n'est pas étranger non plus à son surnom. Sur le lot, un est légitime et il en a reconnu 11 autres. Né dans une famille luthérienne, Auguste le Fort a été bien élevé. Son temps, partagé entre initiation culturelle et formation militaire, avec entraînement au métier des armes. Comme il n'avait pas à apprendre le métier de prince électeur, il a même eu le temps de faire le grand tour, comme on appelait le voyage d'initiation des jeunes hommes fortunés de l'époque. Dans son cas, ce tour était celui des cours européennes, visant à se faire connaître des différents souverains et découvrir leur réussite dans le domaine culturel et artistique. Il a donc sillonné l'Europe entre 17 et 18 ans, avec notamment des haltes en Espagne, en Italie et en France. Son séjour à Versailles, où il est accueilli par la princesse Palatine, l'a extraordinairement marqué. Selon son chaperon, le baron Haxthausen, le jeune homme a beaucoup profité de ses cours d'équitation, de danse et d'escrime, et aussi de la conversation et des règles de bienséance des salons de Versailles. Le moment le plus important du grand tour du futur Auguste le Fort a été l'entretien que lui a accordé Louis XIV. Même si à cette époque le roi de France fait la guerre aux Allemands, toutes les têtes couronnées d'Europe sont plus ou moins parentes et ont sait aborder les sujets qui fâchent sans cesser de se parler courtoisement. Le jeune homme a montré qu'il était instruit, réaliste, avec un esprit clair. Il est heureux d'avoir rencontré un ennemi qui est aussi un parent. Et surtout, il a été incroyablement impressionné par le faste et la culture de la cour versaillaise. Auguste Lefort a rapporté de son séjour à Versailles un grand amour pour la musique française et aussi une conception du pouvoir inséparable du faste et de la gloire que peut lui apporter la culture des arts. Quoi qu'il doive lui en coûter, il va adapter à sa propre cour les leçons de son lointain cousin, le roi Soleil. Entre 1694, son accession au trône de prince électeur de Saxe, et sa mort en 1733, Auguste Lefort va faire passer Dresde du statut de ville allemande parmi d'autres à celui de centre culturel à l'échelle européenne. Pour ce faire, il agit sur plusieurs fronts. Il va réunir une immense collection dans le domaine des beaux-arts. Tableaux, estampes, dessins, sculptures et aussi porcelaines, bijoux, médailles. Il va faire construire des palais dans sa ville. Ne dit-on pas en français, à sa cour, les princes s'immortalisent par de grands édifices. Il fait de sa ville un petit paradis, comme le décrit un contemporain, parce qu'elle réunit dans un même lieu ce que l'on trouve disséminé dans toute l'Europe. Louis XIV est un modèle pour Auguste Lefort et comme son aîné français, le jeune Saxon veut faire accéder son état au statut le plus glorieux. Raison pour laquelle il veut agrandir son territoire et se faire élire roi de Pologne. Le calcul n'est cependant pas excellent puisqu'il va l'obliger à participer à la guerre contre la Suède, la Grande Guerre du Nord qui va durer peu ou prou jusqu'en 1721. Auguste sera même détrôné entre 1704 et 1709. Des événements fort coûteux, bien sûr, et qui vont rejaillir sur la politique culturelle du souverain, notamment sur sa musique. La musique à la cour de Dresde est partout, à la chapelle, à la chambre et en extérieur. Elle évolue bien sûr au gré de la fortune du souverain. À côté de troupes itinérantes, de danseurs français ou de chanteurs italiens, des musiciens permanents forment divers ensembles. L'orchestre de la cour, d'abord bâti sur le modèle de celui de Versailles, avec une bande de hautbois, reflète au début de son règne le goût français d'Auguste Lefort. Dissous en 1707, moment délicat pour les finances saxonnes, il est peu à peu reconstitué jusqu'à comprendre une trentaine d'instrumentistes. Et à présent, le goût est nettement plus cosmopolite. Certes, le premier violon, Jean-Baptiste Volumier, a été formé à la cour de France et il perpétue à Dresde la technique et le style français. Mais on trouve aussi dans son orchestre des Allemands, des Italiens et en fait une sorte de melting pot de musiciens venus d'Autriche, de Bohême, du Brabant, du Luxembourg, de Pologne ou d'Espagne. Plusieurs raisons ont fait que le style musical de la cour de Dresde a évolué peu à peu. L'une d'elles est le goût du prince héritier, prénommé lui aussi Frédéric Auguste, et qui lui aussi a fait son grand tour pour se familiariser avec la géopolitique européenne. Sauf que le jeune homme, lui, préfère l'Italie à la France et que le sommet de son voyage est son séjour à Venise. À Venise, le jeune Frédéric Auguste, fils d'Auguste Lefort, engage un maître de chapelle particulier, Johann David Heinichen, un Saxon, mais qui vit en Italie depuis 7 ans, où il fait carrière dans l'opéra. Il engage aussi le violoniste virtuose Francesco Maria Veracini, et il engage même toute une troupe de chanteurs qui vont faire le voyage de Dresde avec lui, sous la direction du maître de chapelle de la basilique San Marco, Antonio Lotti. Ces Italiens vont venir renforcer l'orchestre dans lequel on trouve déjà, parmi d'autres, le flûtiste français Pierre-Gabriel Buffardin, le violoniste allemand Johann Georg Pisendel, qui a également travaillé avec Vivaldi à Venise, le luthiste Silvius Leopold Weiss, qui a vécu à Rome, ou le bohémien Jan Dismas Zelenka, qui lui a travaillé à Vienne.
Exercise.
Auguste Lefort, même s'il est un amateur d'art sincère, que ce soit pour les arts visuels ou les arts dramatiques et sonores, les utilise aussi à des fins politiques. Lorsqu'il réalise une collection de tableaux, c'est autant pour le divertissement et l'éducation de ses sujets que pour participer à sa gloire. De même avec la musique et en particulier l'opéra. Certes, il s'agit de divertir la cour, mais aussi de satisfaire une nécessité de représentation. En 1709 déjà, Auguste a engagé une troupe italienne pour impressionner le roi du Danemark, qui pouvait lui être utile en Pologne. 10 ans plus tard, il organise le mariage de son fils avec une fille de l'empereur d'Autriche. Et cette fois, ce sont les Habsbourg qu'il lui faut éblouir. Pour les cérémonies du mariage de son fils avec une demoiselle de Habsbourg, Auguste Lefort a engagé des frais colossaux. Non seulement il a recruté toute une troupe italienne, dont le fameux castra Senesino, mais il a également prévu la construction d'un opéra dans son nouveau palais du Zwinger, avec une salle permettant d'accueillir 2000 spectateurs. Et bien sûr, il faut ajouter à ce budget tous les décorateurs, peintres, charpentiers, machinistes chargés de la mise en scène et des décors. Tous venus d'Italie, naturellement. Dans l'opéra Théophane de Lotti, représenté pour le mariage de son fils à Dresde en 1719, Auguste Lefort, qui a commandé le livret, réussit à transmettre son point de vue sur la politique européenne. À travers les alliances et inimitiés du personnage d'Othon, on peut voir Auguste s'allier avec l'empereur d'Autriche contre la France et les Ottomans, CQFD. Pourtant, comme on l'a vu tout à l'heure, le prince électeur est plutôt amateur de musique française. Le mariage passé, il renvoie toute la troupe italienne. Il va continuer néanmoins à entretenir et développer son orchestre. Et en 1731, tout de même, constatant l'évolution du goût, il va faire venir à grands frais l'un des plus grands compositeurs d'opéra italien de l'époque, demandé partout, de Naples jusqu'à Vienne, Johann Adolf Hasse. Celui-ci portera la renommée de l'orchestre de Dresde au point qu'il sera considéré sous sa direction comme le meilleur d'Europe. Thank you. Un air de Siroe Redi Persia de Johann Adolf Hasse, le dernier opéra de Hasse donné à Dresde en 1763. Franco Fagioli contre-ténor avec l'ensemble Harmonia Athenea dirigé par Georges Petrou. Tout le programme, la réécoute et le podcast sont bien sûr sur francemusique.fr sur la page Musicopolis. Et pour nous écrire, rien de plus simple, vous cliquez sur l'onglet Contact. Notre grande petite équipe était composée aujourd'hui de Éric Villenfant pour le mixage, Philippe Petit pour la réalisation, Thaïssa Froidure pour les recherches et Clément Diaz pour le site.
À réécouter sur francemusique.fr.